Dieu a donné sa loi, il a fait alliance avec Israël, qui a dit « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit ». Moïse et les responsables du peuple sont montés sur la montagne. Le texte nous dit « Ils ont contemplé Dieu, ils ont mangé et bu ». Un moment de communion avec Dieu sur la montagne. Et puis ensuite, et c'était ce à quoi on s'était intéressé la dernière fois, les chapitres 24 à 31 contenaient des dispositions pour construire cette tente de la rencontre avec Dieu, ce tabernacle, des dispositions sur l'agencement, comment cette tente devait être meublée. Il y avait un coffre de l'Alliance qui contenait l'acte de l'Alliance, les tables de la loi. Il y avait une table avec des pains, avec 12 pains pour représenter les 12 tribus, qui veut dire que Dieu était ouvert, il ouvrait sa table à tout ce peuple, ces 12 tribus. Il y avait un chandelier qui était allumé en continu, signe de la présence de l'Éternel. Et on avait terminé en voyant qu'il y avait un grand voile, un voile qui séparait le lieu saint, là où pouvaient rentrer les prêtres, et le lieu très saint, là où Dieu résidait, et où il était très dangereux d'aller, parce que Dieu était là. Ça, c'est les chapitres 24 à 31. Et un peu plus loin, chapitre 35 à 40, et ben là, c'est la réalisation de toutes ces instructions, et donc la construction et l'installation de ce tabernacle. Et on voit le livre qui se termine en disant que la nuée de la présence de Dieu, là, la nuée enveloppa la tente de la rencontre. Et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. C'est magnifique. C'est ça la fin de ce livre de l'Exode. Et entre ces deux sections, on a 24 à 31, les instructions. Et puis la fin, 35 à 40, là c'est la réalisation de ces instructions. Entre deux, là on a une section, chapitre 32 à 34, qui s'intercale. Et c'est ce que nous allons lire ensemble en partie, nous allons lire le chapitre 32. Et c'est page 101 dans les Bibles rouges. Quand le peuple s'aperçut que Moïse tardait à redescendre de la montagne, il se rassembla autour d'Aaron et lui dit « Allons !» Fabrique-nous des dieux qui marchent à notre tête, car Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons ce qui lui est arrivé. Aaron leur répondit, ôtez les pendants d'or des oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Tous se défirent des pendants d'or qui étaient à leurs oreilles, et les apportèrent à Aaron. Celui-ci les reçut de leurs mains, façonna l'or au burin, et en coula la statue d'un veau. Alors le peuple s'écria, « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte !» Voyant cela, Aaron construisit un autel devant le veau. Puis il proclama, « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel !» Le lendemain, levé de bon matin, le peuple se mit à offrir des holocaustes et des sacrifices de communion. Ils s'assirent pour manger et boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, « Va, redescends, car ton peuple, que tu as fait sortir d'Égypte, se conduit très mal. Ils se sont bien vite détournés de la voie que je leur avais indiquée. Ils se sont fabriqués un veau de métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui et lui ont offert des sacrifices en disant, « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. » L'Éternel ajouta, « Je constate que ce peuple est un peuple rebelle. « Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère s'enflammera contre eux et je les exterminerai. Mais je ferai de toi un autre grand peuple. » Alors Moïse supplia l'Éternel, son Dieu, d'avoir pitié en disant, « Éternel, pourquoi ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte par un formidable déploiement de force et de puissance ? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils que c'est dans de mauvaises intentions que leur Dieu les a fait sortir de leur pays ? Pour les faire périr dans la région des montagnes et les faire disparaître de la terre. Laisse ta colère et renonce à envoyer le malheur à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, envers qui tu t'es engagé par serment en ton propre nom, en leur déclarant « Je rendrai vos descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel. Je leur donnerai tout ce pays dont je t'ai parlé et ils le posséderont pour toujours. » Alors l'Éternel renonça à faire venir sur son peuple le malheur dont il l'avait menacé. Moïse s'en retourna et redescendit de la montagne, tenant en main les deux tablettes de l'acte de l'Alliance. Elles étaient gravées des deux côtés, sur les deux faces. Ces tablettes étaient l'œuvre de Dieu, l'écriture était celle de Dieu gravée sur les tablettes. Quand Josué entendit les clameurs poussées par le peuple, il dit à Moïse, « Il y a un bruit de guerre dans le camp !»« Non, répondit Moïse, Ce ne sont ni des cris de victoire, ni des lamentations de défaite, c'est un bruit de chanson que j'entends. Quand il fut près du camp, qu'il aperçut le veau et vit les chœurs de danse, il entra dans une grande colère. Il lança les tablettes qu'il tenait en main et les mit en pièces au pied de la montagne. Il saisit le veau que le peuple avait fabriqué, le jeta au feu et le réduisit en poussière qu'il éparpilla à la surface de l'eau. Puis il fit boire cette eau aux Israélites. Ensuite, il demanda à Aaron, « Que t'a donc fait ce peuple pour que tu l'aies entraîné à se rendre coupable d'un si grand péché ?» Aaron répondit, « Que mon Seigneur ne se fâche pas, tu sais toi-même que ce peuple est porté à faire le mal. Ils m'ont dit, fabrique-nous des dieux qui marchent à notre tête, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Je leur ai donc répondu, « Que ceux qui ont de l'or s'en dessaisissent. » Ils m'en ont remis, je les fais fondre au feu, et voilà le veau qui en est sorti. Moïse vit que le peuple était déchaîné. Aaron l'avait laissé faire, de sorte qu'il s'exposait au mépris de ses ennemis. Alors il se posta à l'entrée du camp et s'écria, « Que tous ceux qui sont pour l'Éternel viennent vers moi !» Tous les membres de la tribu de Lévi se rallièrent à lui. Il leur dit, « Voici ce qu'ordonne l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté. Parcourez tout le camp, allez d'une tente à l'autre, que chacun tue son frère, jusqu'à son frère, son ami, son proche. » Les Lévites obéirent à Moïse de sorte que ce jour-là, environ 3000 hommes du peuple perdirent la vie. Moïse dit aux Lévites, « Vous avez été investis aujourd'hui au service de l'Éternel, car vous avez combattu chacun contre son fils et son frère, de sorte que l'Éternel vous accorde aujourd'hui sa bénédiction. » Le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous vous êtes rendu coupable d'un grand péché. Maintenant, je vais remonter auprès de l'Éternel. Peut-être obtiendrai-je un moyen d'expiation pour votre péché. » Moïse retourna donc auprès de l'Éternel et dit, « Hélas, ce peuple s'est rendu coupable d'un grand péché. Il s'est fait un dieu d'or. Mais maintenant, veuille pardonner ce péché. Sinon, efface-moi du livre que tu as écrit. » L'Éternel répondit à Moïse, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Maintenant va, conduis le peuple là où je t'ai dit. Mon ange marchera devant toi, mais au jour où j'interviendrai, je les châtierai pour leur péché. » L'Éternel frappa le peuple à cause du veau d'or qu'avait fabriqué Aaron. On va commencer avec une anecdote, une petite histoire au sujet de ma Sierra. C'était en 2005, je venais d'avoir mon permis depuis une semaine. J'étais trop content et j'allais un week-end avec d'autres chrétiens là. Et je prends la voiture pour partir en week-end. Et je rentre sur l'autoroute et la chaussée est légèrement mouillée, une petite bruine là. Et puis j'arrive trop vite dans le virage et en fait ma voiture dérape et je vais direct dans le mur dans le virage. Première semaine de permis et je défonce la voiture, l'aile droite à l'avant. Je crois qu'après on l'a donné à la casse carrément. Et ici dans cette histoire, comme on l'a vu ensemble, on a l'impression qu'avec le peuple d'Israël, au premier virage, il y a une sortie de route directement. J'ai donné le contexte juste avant. Dieu qui fait alliance, le peuple qui répond « Oui, oui, on va te suivre. » Et premier virage, première sortie de route, le veau d'or. Moïse est absent pendant 40 jours. C'est la fin du chapitre 24 qui nous dit qu'il est resté sur la montagne 40 jours, 40 nuits. Et du coup, le peuple s'impatiente. Il n'y a plus de Moïse en vue. Alors le peuple se retourne contre Aaron, son bras droit, son frère aussi, et lui demande de fabriquer des dieux pour les accompagner. Ah oui, ils ont plus leur guide, le représentant de Dieu là qui est avec eux. Et on a l'impression qu'il a fallu seulement 40 jours que le peuple, il semble avoir perdu tous ses repères. Où est passé Moïse, notre chef? D'ailleurs, ils disent pas ça, ils disent Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte. Une façon de parler assez méprisante, assez distante quand même au sujet de leur chef, celui que Dieu a choisi pour les mener vers la liberté, qui les a conduits. Le peuple se détourne bien vite des instructions de l'Éternel et demande à Aaron de lui fabriquer une idole. Alors certains pensent que le peuple souhaite, entre guillemets, remplacer l'Éternel, car il ne se manifeste plus par son envoyé, Moïse, étant absent. D'autres pensent qu'ils souhaitent simplement se faire une représentation de l'Éternel. Ils veulent quelque chose de visible, là, puisqu'ils ne voient plus Moïse. Alors il faut quelque chose, peut-être une image qui nous permet d'adorer Dieu, mais elle est bien là, et voilà, ça nous aide. Donc, quoi qu'il en soit, ici, il s'agirait soit d'une transgression du premier commandement que Dieu a donné au chapitre 20, « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi », soit la transgression du second commandement, où Dieu dit « Tu ne feras pas d'idole, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, en bas, sur la terre. » Et Aaron satisfait leur exigence et façonne une idole avec l'or prélevé sur les Israélites. Rappelez-vous, c'est l'Éternel qui avait permis à Israël de partir avec de grandes richesses, avec de l'or, des objets précieux que les Égyptiens leur avaient donnés. Et les Israélites prennent ces objets-là, qu'ils ont pu recevoir par la manifestation de la puissance de Dieu, et ils en font une idole. Donc c'est le comble de l'infidélité, de l'ingratitude envers ce Dieu qui les a libérés. Il s'agit d'une idole en forme de veau. Littéralement, le mot renvoie plutôt à un jeune taureau, en réalité. Taureau, c'est un symbole de force, de fertilité. On pouvait le retrouver dans d'autres nations qui adoraient aussi des animaux comme ça. Donc, il décide fabriquer une idole en forme de veau. Mais toute représentation de Dieu est en réalité une insulte au Dieu vivant et vrai. Car faire une représentation de l'Éternel, du Dieu que nul ne peut voir, c'est nécessairement le déformer. C'est nécessairement le réduire. C'est nécessairement l'avilir. Dieu est puissant, comme un taureau. Mais pas seulement. C'est pas un taureau, d'ailleurs. D'où l'interdiction formelle de le représenter. Parce que le représenter, c'est déjà le déformer. C'est déjà déformer Dieu et l'insulter. Alors, à la vue de l'idole qu'Aaron a façonnée au burin, le peuple s'écrie « Voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte !» Or, le peuple le sait, le texte biblique nous en témoigne, c'est l'Éternel qui les a conduits hors d'Égypte, personne d'autre. D'ailleurs, lorsque Dieu a donné sa loi, les premières paroles, le début du décalogue, les 10 paroles en Exode 20, c'est « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. » Voilà la définition de l'Éternel. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. » Ils réclament un Dieu qui marche à leur tête. Ils ont besoin d'un repère. Mais le texte nous apprend que Dieu les accompagnait déjà. Dieu les accompagnait visiblement jour et nuit par une nuée, la nuée de sa présence. Au chapitre 13, j'ai relu verset 21, il est dit « L'Éternel marchait à leur tête. » Aaron proclame une journée de fête en l'honneur de l'Éternel. Alors, suivant la compréhension qu'on a, est-ce qu'il cherche à rattraper la situation? Il voit que le peuple est en train de dériver vers l'idolâtrie, il réoriente le peuple vers l'Éternel? Ou alors, est-ce quelque chose qui est conforme à la demande initiale? On voulait simplement une représentation de l'Éternel, un média peut-être pour l'adorer, mais toujours est-il que Aaron proclame une journée de fête. Et puis donc, le lendemain, de bon matin, on fait des sacrifices, des holocaustes. Donc les holocaustes sont des sacrifices entièrement consumés. Et puis toute la fête dégénère en orgie, en fait. Ils mangèrent et ils burent, et le peuple se leva pour se divertir. Le mot qui est là, qui est très gentillet, en fait, ça parle d'une débauche, d'une immoralité sexuelle. Donc ça part vraiment en vrille, j'ai envie de dire. Et dans les religions voisines, où il y avait aussi des festivités, il y avait souvent un mélange entre l'adoration du Dieu et des dérives, notamment sexuelles. On retrouve ça à toutes les époques, on retrouve ça dans le Nouveau Testament, quand dans certains temples dédiés à une déesse de la fertilité, il y a aussi des prostituées sacrées, etc. C'est assez courant chez les peuples voisins, mais c'est évidemment une insulte à Dieu pour ce qui concerne l'Éternel qui a donné sa loi à son peuple. Alors quand on lit cette histoire, on pourrait se dire mais c'est stupide. Et d'ailleurs dans le psaume 106, l'auteur, en faisant référence à ces événements, dit ils ont troqué Dieu, leur sujet de gloire, contre la représentation d'un bœuf broutant de l'herbe. C'est ridicule, l'Éternel, tu fais une image d'un bœuf qui broute l'herbe. Quelle histoire! Quelle stupidité, pourrait-on se dire. Mais rappelons-nous que, pour nous-mêmes, à chaque fois que nous péchons, à chaque fois qu'on se détourne de Dieu, c'est aussi stupide. C'est stupide. C'est notre cœur qui nous tourne vers le mal, et c'est quelque chose qui est en réalité stupide, néfaste pour nous-mêmes et une insulte à Dieu. On y reviendra à la fin de la prédication. La suite, c'est qu'on voit la colère de Dieu et l'intercession de Moïse. L'Éternel informe Moïse sur la montagne en lui disant « Ton peuple se conduit très mal ». L'Éternel est en colère contre ce peuple rebelle, littéralement contre un peuple à la nuque raide, comme une bête qui raidit sa nuque contre le joug, contre l'instrument pour qu'il puisse servir son maître et travailler la terre. Donc, comme une bête qui raidit sa nuque, c'est un peuple rebelle. Et donc, l'Éternel menace carrément d'exterminer ce peuple et de tout recommencer à zéro avec Moïse. On fait reset, on reprend du début avec Moïse, ça va mieux se passer. Moïse est aussi un descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et donc, l'Éternel pourrait effectivement reprendre les choses à zéro, peut-être avec Moïse. Mais lorsqu'on lit ça, ça nous dit que le péché, c'est grave. Le péché, c'est grave. Et se détourner du seul Dieu vivant et vrai, c'est grave. Ce qu'on appelle l'idolâtrie. Et pour un peu mieux comprendre peut-être cette notion qui est un peu floue d'idolâtrie, la Bible, et en particulier chez les prophètes, utilise une image pour décrire l'idolâtrie. L'idolâtrie est sans cesse comparée à un autre péché qui nous parle peut-être davantage. C'est l'adultère. J'ai déjà eu l'occasion de prêcher à deux reprises sur le chapitre 16 du livre du prophète Ézéchiel, qui raconte l'histoire de son peuple infidèle de la façon suivante. On voit l'Éternel, Dieu, qui a sauvé un bébé, qui a pris soin de ce bébé, celle qui est devenue une belle femme, celle qui l'a épousée, qui l'a parée de toute sa gloire, une princesse qui a acquis une grande renommée. Et puis l'histoire se rompt d'un coup, où cette magnifique histoire de rédemption bascule lorsque cette femme élevée en dignité, cette princesse, va se prostituer, va chercher et multiplier ses amants. Imaginez la colère du mari trahi. Et pourtant, je spoil la fin de l'histoire, mais Dieu lui pardonne. Le péché, c'est grave. C'est comme un adultère. Comme un adultère. Alors Moïse, lui aussi, est conscient de cette gravité. Il va supplier l'Éternel d'avoir pitié. Et ça, je trouve très fort, ce fait-là. Parce que Moïse, lui-même, aurait pu être exaspéré par son peuple. Par son peuple. D'ailleurs, l'Éternel lui dit « ton peuple ». S'en détache, c'est ton peuple. Et Moïse lui répond ton peuple. Il se renvoie la balle. Moïse aurait vraiment pu être exaspéré avec ce peuple et lui dire vas-y, extermine-le, on reprend avec moi, il n'y a pas de problème. Je serai débarrassé. Pourquoi? Parce que les chapitres et les chapitres nous parlent de toutes les misères qu'ils ont fait à Moïse. Combien de fois ils se sont révoltés contre lui? Ils ont dit mais t'es qui toi? Pourquoi tu viens? Pourquoi t'as fait ça? On aurait mieux fait de mourir au désert. Pourquoi tu nous as emmenés là? Là-bas, on avait des melons. En Égypte, c'était mieux avant. La nostalgie déformée. J'ai discuté de ça. Ils l'ont menacé. Quelquefois, ils ont même voulu le tuer. On peut se demander ce qu'on aurait répondu à la proposition de Dieu. Mais c'est incroyable de voir que Moïse, lui, il réagit pas comme ça. Et il va intercéder en faveur de son peuple. Et remarquez la manière dont il plaide pour son peuple. Il n'essaie pas de lui trouver des circonstances atténuantes en disant « bah oui, j'étais absent, tu sais, ils sont un peu déboussolés, prends pitié ». Non pas que le péché commis ne soit pas si grave. Bon, ils ont fait une idole, mais ils veulent quand même t'adorer, c'est une fête en l'honneur de l'Éternel. Pas du tout. Les arguments que Moïse avance concernent Dieu lui-même et sa gloire. Le premier, c'est la réputation de l'Éternel auprès des Égyptiens. Si tu les extermines, qu'est-ce que vont penser les Égyptiens ? Que ce Dieu-là, le Dieu des Hébreux, les a fait sortir, en fait, pour les détruire. Quelle image, quelle réputation du Dieu que tu es. Deuxième argument, souviens-toi des promesses que tu as faites à nos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Souviens-toi des promesses, tu as fait un serment par ton propre nom. Et tu leur as donné la promesse d'avoir une descendance nombreuse et de les faire entrer dans la terre promise. Souviens-toi de tes promesses. Donc les deux arguments, c'est ta gloire éternelle et tes promesses. Tiens tes promesses, souviens-toi. Et plus incroyable encore que l'intercession de Moïse, c'est la réponse de Dieu. Ce verset 14-là. Alors l'Éternel renonça à faire venir sur son peuple le malheur dont il l'avait menacé. Ça, c'est encore plus incroyable. Et ça, c'est vraiment le Dieu de la Bible. Celui qui se qualifiera deux chapitres plus loin lorsqu'il va renouveler cette alliance avec ce peuple rebelle. L'Éternel, un Dieu de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère et riche en amour et en fidélité. Voilà qui est l'Éternel. Alors j'aimerais m'arrêter un instant pour réfléchir à la prière. On voit Moïse qui adresse cette prière à Dieu, cette supplication pour son peuple. Et Dieu répond. J'aimerais souligner, relever que la Bible affirme à la fois que Dieu, l'Éternel, est souverain, c'est-à-dire que sa volonté s'accomplit toujours. Et en même temps, la Bible affirme que l'homme est responsable de ses actes. Et il est responsable aussi de prier, notamment. Au début, on voit Dieu qui est prêt à exterminer ce peuple. Moïse supplie et Dieu renonce. La Bible affirme à la fois Dieu est souverain et l'homme est responsable. Et les deux s'accordent ensemble. Nos prières s'inscrivent même dans le plan de Dieu. Parce que c'est lui-même, Dieu, qui nous dirige dans la prière. Et Paul, dans le Nouveau Testament, l'un des auteurs de nombreuses lettres dans le Nouveau Testament, dit « Nous ne savons pas prier comme il faut. Nous avons besoin de Dieu qui vient diriger nos prières. » Et ici, on peut comprendre que c'est Dieu qui a suscité lui-même l'intercession de son serviteur Moïse pour épargner son peuple. Et le Seigneur s'attend à ce que nous venions à lui pour lui présenter nos vies, lui faire connaître nos demandes, parce qu'il est notre Père. Demandons au Seigneur comment nous devons prier. Et comme Moïse, appuyons-nous sur qui est Dieu pour le prier. Seigneur, tu as dit que tu n'abandonnerais pas celui qui vient à toi, que tu es le Dieu fidèle, etc., etc. Alors viens à mon aide. Voilà le genre de prière qu'on pourrait faire en fonction de qui Dieu est. Apprendre à prier sur la base de qui est Dieu et de s'appuyer sur les promesses de Dieu qui sont contenues dans la Bible. Le péché, c'est grave. Moïse redescend de la montagne et entre dans une grande colère à la vue de tout cela, toute cette orgie, cette idole qui voit là en forme de veau. Il brise l'étape de la loi. Il saisit le veau d'or, le détruit. Probablement que, je m'interrogeais par rapport à ça, mais comment on peut détruire un veau d'or? Probablement que c'était une idole en bois plaqué or, en fait. C'est pour ça qu'il peut la réduire en cendres. Il la détruit, il la réduit en poussière, il l'éparpille dans l'eau et il la fait boire aux Israélites. Manière de leur faire réfléchir à leur responsabilité, leur culpabilité. Vous allez boire de cette eau. Puis Moïse demande des comptes à Aaron, qui, le moins qu'on puisse dire, lui donne une explication peu convaincante. Il rapporte qu'il a pris l'or. Il rapporte la demande des Israélites, puis qu'il a pris l'or, et l'a jeté au feu, et il y a une idole qui est sortie. C'est limite, c'est un miracle, quoi. Pourtant, le texte nous dit qu'il l'a façonné au burin. C'est pas juste la jeter dans le feu, et il y a une idole qui est sortie, comme ça. Ça me fait penser un petit peu, parfois, aux excuses bidons qu'on peut donner à nos péchés. C'est tellement irrationnel, c'est tellement une stupidité. On va dire, ah mais Seigneur, tu vois, ça s'est passé comme ça, je pense que c'est toi qui as conduit. On dit n'importe quoi. C'est une excuse bidon. Parce qu'on est confus. Je pense que là, Aaron, il est dans la confusion totale, il ne sait même plus ce qu'il raconte. Il essaye de se dédouaner. Et pourtant, il est le bras droit de Moïse. Celui que Dieu aussi a désigné pour jouer un rôle auprès de ce peuple. J'avance dans l'histoire. Moïse appelle ceux qui sont fidèles à l'Éternel, les Lévites se lèvent, les fautifs sont identifiés et vont perdre la vie. Il y a 3000 personnes qui sont exécutées. Le péché, c'est grave. Et Moïse déclare au peuple, vous avez commis un très grand péché, verset 30. Et il a conscience qu'au-delà des meneurs, peut-être, il y a une responsabilité même collective de ce peuple. Alors il retourne auprès de l'Éternel pour implorer son pardon, disant, hélas, ce peuple s'est rendu coupable d'un grand péché, il s'est fait un dieu d'or, mais maintenant, veuille pardonner ce péché, sinon efface-moi du livre que tu as écrit. Autrement dit, Moïse est prêt à laisser sa vie s'il le faut pour obtenir le pardon de Dieu pour son peuple. Efface-moi du livre que tu as écrit. Alors, soit c'est une manière de parler du fait qu'il met sa vie en jeu, qu'il est prêt à être retranché des vivants pour que Dieu pardonne, soit il est question du livre de ceux qui appartiennent à Dieu. Jusqu'ici, dans l'Ancien Testament, on n'a pas forcément lu cette image du livre des justes, du livre de ceux qui appartiennent à Dieu. J'hésite un petit peu par rapport à ça. Mais en tout cas, Moïse semble prêt à tout, prêt à donner sa vie pour son peuple, pour que son péché soit expié. Autrement dit, pour que Dieu pardonne. Mais l'Éternel refuse cette proposition. Moïse lui-même, la Bible en témoigne, n'est pas sans reproche. En parlant d'Aaron et de Moïse, le texte nous dit dans le livre des Nombres, « Vous ne m'avez pas été fidèle, c'est l'Éternel qui parle, et vous n'avez pas honoré ma sainteté aux yeux des Israélites. » Il parle à Aaron et Moïse. Moïse n'est pas exempt lui-même de tout reproche, même s'il joue un rôle incroyable, qu'il est vraiment l'instrument choisi par Dieu et toutes les qualités qu'on peut voir chez lui. Mais Moïse ne peut être lui-même le moyen d'expiation. Et d'ailleurs, l'Éternel nous répond, c'est celui qui a péché qui doit payer. Commence à affirmer là l'idée de responsabilité individuelle aussi. Alors le texte biblique ne s'arrête pas là. La suite de la révélation biblique nous apprend qu'il faudra une personne exempte de tout péché pour expier les fautes des hommes. Comme dans le cas des sacrifices, il fallait présenter à Dieu un animal sans défaut et sans tache, de même, il a fallu la mort d'un homme exempt de tout péché, un homme qui n'a jamais péché, exempt de tout mal, afin que les hommes soient pardonnés. Le seul moyen du pardon, ce sera le sang de celui qui est appelé agneau de Dieu, Jésus-Christ, lui qui a payé pour des hommes coupables, pour des hommes rebelles. Et sur la croix, Jésus a demandé à Dieu le Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et contrairement à Moïse, Dieu a agréé sa demande. Christ est le substitut efficace pour nos fautes, pour nos trahisons, pour nos infidélités, pour nos adultères. Jésus est mort à la croix pour que nous vivions. Il a payé le prix de nos fautes pour que nous soyons pardonnés. Et nous pouvons aujourd'hui recevoir le pardon divin en plaçant notre confiance en Jésus. As-tu reçu ce pardon de Dieu grâce à Jésus ? J'aimerais conclure avec quelques réflexions. Lorsqu'on lit cette histoire d'idolâtrie, on peut se dire, mais comment ça me rencontre aujourd'hui, cette histoire ? Parler d'idolâtrie au XXIe siècle paraît complètement décalé, hors de propos. Et est-ce bien le cas ? Et sommes-nous bien différents du peuple d'Israël ici ? Le pasteur Tim Keller, décédé récemment, qui a écrit un livre vraiment édifiant, je vous encourage à l'acheter, dans ce livre « Les idoles du cœur », réfléchit au sujet de l'idolâtrie et de son lien avec nous aujourd'hui. Il écrit « Il y a 2000 ans, les nations les plus avancées adoraient des idoles faites de bois et de pierre. Aujourd'hui, nous rions de leur ignorance, mais sommes-nous plus avancés ? Pour la plupart d'entre nous, le mot « idole » évoque une statue au sens propre ou alors la prochaine gagnante de la Star Academy. De nombreux peuples pratique encore aujourd'hui le culte des idoles un peu partout dans le monde, mais l'idolâtrie intime, celle qui a lieu dans le cœur de chacun, est une pratique
universel. Le cœur humain a tendance à prendre de bonnes choses, comme une carrière brillante, une relation amoureuse, des biens matériels, ou même la famille, et à les transformer en biens suprêmes. Nos cœurs les élèvent au rang de Dieu, croyant qu'elles nous donneront importance, sécurité, protection et épanouissement si nous parvenons à les atteindre. Le cœur humain, reprenant Calvin, est une fabrique d'idoles. Il y a un auteur qui a dit « L'être humain est créé pour adorer. Et s'il n'adore pas Dieu, il adorera quelque chose d'autre. » Où est notre cœur ? Les idoles du cœur, cette idolâtrie plus intime peut-être. Réfléchissons, et j'aime beaucoup dans ce livre, il pose quelques questions peut-être pour démasquer des idoles cachées dans nos vies. Qu'est-ce qui fonde notre vie ? Quel est le but de ma vie ? À quoi est-ce que j'aspire ? À quoi est-ce que je rêve ? À quoi est-ce que je consacre l'essentiel, le meilleur de mon temps, de mon argent, de mes pensées ? Ces quelques questions peuvent nous aider à démasquer ce qui peut devenir une idole, une bonne chose qui se transforme en bien suprême, comme écrit Keller, et qui devient un pâle substitut de Dieu, une sorte d'idole plaqué or, qui termine en poussière. Peut-être quelque chose d'encore plus subtil dans l'idolâtrie, et comment on peut comprendre ça pour nous aujourd'hui, ça serait de comprendre l'idolâtrie comme cette tentative, cette tentation de faire un Dieu à notre sauce. Voilà, je veux adorer l'Éternel, mais je veux une représentation. Tiens, on va faire un veau. Voilà, j'ai décidé, je façonne, je fais un peu Dieu à ma sauce, à ma façon, à ma convenance. Voilà comment on va adorer l'Éternel. Parce que c'est quand même bien d'avoir une image là, ça nous aide. Suivre Dieu, mais comme on veut. Et du coup, se forger un Dieu ou une religion qui nous va bien, mais qu'on façonne nous-mêmes. Ah, je veux bien que Dieu me pardonne de mes fautes. Par contre, je ne suis pas trop prêt à suivre sa volonté. Dieu n'a pas un mot à dire sur ma vie personnelle, sur mes fréquentations, sur ma vie de couple, sur l'utilisation de mes ressources, etc., etc. Je veux bien aller à l'église, mais voilà, il y a quand même des limites. Je ne suis pas prêt quand même à m'impliquer dans la vie de mes frères et sœurs, dans la famille de Dieu. Voilà quelques exemples. Il y a bien des manières de remodeler Dieu à notre convenance, en fait. Et c'est aussi une forme d'idolâtrie, c'est aussi une forme de déformation de Dieu et de sa volonté. Alors, après avoir lu ce texte, est-ce qu'on doit en déduire que Dieu va nous frapper sur place, comme ces 3000 hommes qui sont morts ? Comment prendre ce texte un peu choquant de prime abord aujourd'hui ? Là, j'ai terminé dans la troisième partie tout à l'heure, en disant que nous lisons ce texte-là à la lumière de la révélation biblique entièrement. Ce Dieu, l'Éternel, se dévoile et nous pouvons le découvrir au travers de ce qu'il a accompli au fil de l'eau et en particulier à la lumière du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament nous met en contact avec Jésus-Christ qui est ce médiateur parfait. Ce médiateur entre Dieu et nous-mêmes, peuple rebelle, ce médiateur qui lui-même a fait l'expiation pour nous, ce médiateur au travers duquel nous pouvons entrer avec Dieu dans une alliance de grâce. Et voici comment Paul l'explique dans l'une de ses lettres aux chrétiens à Corinthe. Christ, qui était innocent de tout péché, a été condamné comme un pécheur à notre place pour que dans l'union avec lui, nous recevions la justice, le pardon que Dieu accorde. L'Éternel, lent à la colère et riche en bonté, a manifesté sa grâce en payant lui-même le prix de nos infidélités. Nous avons chuté, mais par la foi en Christ, nous pouvons être pardonnés et échapper à la juste colère de Dieu. Dieu ne se met pas en colère parce qu'il est emporté et qu'il part en vrille. Dieu se met en colère toujours en rapport avec qui il est. Il est le Dieu juste et saint
et sa colère est une réponse normale à une offense qui est faite à sa sainteté. Mais cette colère, il a décidé de la prendre sur lui-même, par amour pour nous. Et c'est ça la bonne nouvelle de la Bible. C'est ça l'évangile. C'est que la colère de Dieu, elle est juste. On mériterait d'être frappé par Dieu. Mais Dieu a choisi dans son amour de prendre cette colère sur lui-même, d'endosser toutes nos infidélités, tous nos adultères, toutes nos trahisons envers lui. Enfin, je terminerai par là. Ce texte demeure toutefois un avertissement sur notre manière de vivre. Si nous appartenons à Jésus en particulier, Paul écrit cela aux chrétiens à Corinthe en faisant référence à toute cette histoire d'Israël et notamment cet égarement-là, en écrivant « Tous ces faits nous servent d'exemple pour nous avertir de ne pas tolérer en nous de mauvais désirs comme ceux auxquels ils ont succombé » en parlant des Israélites. « Ne soyez pas idolâtres comme certains d'entre eux l'ont été. » Il poursuit quelques versets plus loin aussi sur leur immoralité, sur le fait de se détourner de l'immoralité sexuelle, qui était un problème qui s'adressait à un problème qui avait été évoqué parmi l'Église à Corinthe en particulier. Alors ce texte-là, d'Exode 32, est à la fois une annonce, une préparation de cette bonne nouvelle qui est contenue dans la Bible. La colère de Dieu est tombée sur Jésus-Christ et qu'il a expié nos fautes, nous pouvons être pardonnés. Il est aussi un avertissement pour nous si nous sommes chrétiens, à ne pas tomber dans le même travers que les Israélites. C'est un encouragement, une invitation à lutter contre le péché de toutes nos forces. Pas être passif, à lutter en nous appuyant sur notre Sauveur, en nous appuyant sur son Esprit qui nous habite. Et pour reprendre les paroles du texte qu'on a lu ensemble à l'étude biblique mercredi soir, une invitation dans cette lutte contre le péché où l'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit « Débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Gardons les yeux fixés sur Jésus